Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons à numéro 2 et le titre sera « La tragédie divine ». La tragédie divine. Voici des textes importants qui vont nous aider. J'aimerais vous demander de, s'il vous plaît, noter ces indications bibliques que je vous donne. Tout d'abord, pour éviter que vous pensiez ou que vous puissiez penser qu'on vous raconte n'importe quoi. Et deuxièmement, pour que vous puissiez constater que c'est bien la sainte parole de Dieu qu'on vous enseigne. Notez tout d'abord die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Il, c'est-à-dire les croyants sur terre, l'ont vaincu Satan. Pourquoi ? À cause du sang de l'agneau Jésus-Christ et à cause de la sainte parole de Dieu et aussi de la parole de leur propre témoignage. C'est-à-dire qu'ils témoignèrent, c'est-à-dire qu'ils ont donc témoigné de ce que la sainte parole de Dieu dit à propos du sang das Blut von Jesus Christus, du sang de Jésus-Christ. Il est dit, entre autres, en Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Ainsi, au psaume, chapitre 107, verset 2, il est dit « Qu'ainsi disent les rachetés du Seigneur, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Notez s'il vous plaît, premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Notez, s'il vous plaît, Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ensuite, il est dit en Hébreu, au chapitre 13, verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Très important. On n'a jamais, et nous allons jamais oublier, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, où il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est venu en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Chers amis, nous allons donc vaincre le diable par ceci. Je, témoigne personnellement à Satan de ce que la parole dit de l'œuvre du sang pour moi. Premièrement, durch das Blut Jesus Christus, par le sang de Jésus, je suis quoi? Mais je suis racheté de la main de l'ennemi. Deuxièmement, par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Troisièmement, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Quatrièmement, par le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, tout comme si je n'avais jamais péché. Cinquièmement, par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, et je suis mis à part pour Dieu. Sixièmement, mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié par le sang de Jésus. Et septièmement, donc, mes chers amis, Satan n'a donc maintenant aucune place en moi, aucune puissance sur moi, car par le sang de Jésus, j'ai la victoire. Alléluia. Chers amis, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, utilise souvent l'analogie de l'Église, la comparant à une armée. Et il utilise des termes et des concepts militaires, tels que combat, lutte, soldat, etc., pour illustrer le combat du chrétien contre les puissances des ténèbres. Pour être victorieux dans le combat, il faut avoir la bonne stratégie, c'est-à-dire la stratégie de Dieu. Il est très facile de trouver nos propres projets et nos propres plans, mais ceux-ci peuvent échouer. Nous avons besoin de connaître la manière de Dieu de faire les choses. Si nous voulons avoir la victoire sur l'ennemi. Le mot « stratégie » est un terme militaire dérivé du mot grec « stratégos » qui désigne le responsable ou le commandant d'une armée, c'est-à-dire un général. La stratégie est en rapport avec ses plans de bataille. L'un des noms donnés au Seigneur, c'est l'Éternel des armées, 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. En tant que commandant et chef de l'Église, il est de son ressort de formuler les plans de bataille et notre tâche est, en tant que soldat dans l'armée du Seigneur, cela consiste donc à connaître sa stratégie et à suivre exactement ses plans de combat. Nous sommes dans un combat, que nous la sachions ou non, et que cela nous plaise ou pas. Nous devons donc bien connaître la stratégie de Dieu et la suivre. Notez maintenant Proverbes, chapitre 29, verset 18, où il nous est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. » La version révisée de la Sainte Bible traduit ceci ainsi « Quand il n'y a pas de prophétie ou de directive de la part du Seigneur, le peuple est sans frein. » ou agit selon ses propres désirs. Nous avons besoin d'une vision, donc d'une stratégie qui soit donnée par Dieu, puis nous devons voir cette vision durant tout le combat, quoi que l'ennemi puisse chercher à faire pour l'échapper ou l'empêcher de s'accomplir. Il est donc très facile de faire nos propres affaires, de ne pas écouter les directives de Dieu et de suivre notre propre voie. Or, cela peut être désastreux. Il y a un grand nombre d'exemples dans l'Écriture sainte de personnes qui ont suivi les directives, c'est-à-dire la stratégie de Dieu, et qui ont réussi. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas suivi ces stratégies par la conduite de Dieu et qui ont fini en catastrophe. Voyons un peu cela de plus près ensemble. Premièrement, nous avons Josué. Josué, au chapitre 5, verset 13, jusqu'au verset 8, verset 29. Oh oui, notez bien cela. Dieu révéla à Josué sa stratégie pour s'emparer de la ville de Jéricho. Josué suivit donc les directives du Seigneur et il réussit. Il présuma ensuite qu'il pourrait facilement s'emparer de la ville d'Aï et donc sans demander à Dieu quelle était sa stratégie. Il avança pour prendre la ville et malheureusement il fut vaincu. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que il n'avait pas recherché la stratégie du Seigneur. Lorsque Dieu lui révéla qu'il y avait un péché dans le camp et ce qu'il aurait dû faire, alors Josué l'a fait, il a fait ensuite, et là, il a réussi. Tout cela, oui, cela, vous, chers amis, je vous pose la question, cela vous semble-t-il familier ? Peut-être. Deuxièmement, nous avons David, c'était quand même pas n'importe qui. Notez 1 Chronique, chapitre 13, verset 1, et là il y a beaucoup de choses à lire, jusqu'au chapitre 15, verset 28. J'ai dit 1 Chronique. Saül était mort. David était roi et tout allait bien. Donc David a tenu conseil avec les chefs. Il a tenu conseil avec tous les princes pour savoir s'il fallait ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. 1 Chronique, j'ai dit, chapitre 13, verset 1 à 4. Il y avait pourtant un problème. Oui, quel était le problème? David n'avait pas consulté le Seigneur. Il n'avait pas consulté Yahvé, l'Éternel, El Shaddai. David présumait qu'il faisait ce qu'il était juste, et cela de la bonne manière, mais il se trompait. Nous aussi, on se trompe souvent. En tout cas, moi, je me suis souvent trompé. De nouveau, il y a un désastre qui s'est donc qui a pu prendre place. Un désastre. Et plus tard, ah là, plus tard, David enfin consulta Dieu. Chapitre 14, verset 10 et verset 14. On a dit de 1 Chronique. Et là, il a obtenu chaque fois les directives de Yahvé l'Éternel, de Dieu. Il réussit à la fois à ramener l'arche à Jérusalem et dans le combat. Cela rapporte de bien connaître, cela nous montre de bien connaître la stratégie de Dieu et de ses voies. Troisièmement, nous avons ce cher Noé. Genèse chapitre 6, verset 1, jusqu'au chapitre 8, verset 22. Yahvé l'Éternel, Dieu, révéla une stratégie très étrange à Noé. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. C'était celle de construire un énorme bateau au milieu de nulle part et de le remplir d'animaux, d'oiseaux et de chaque créature vivante. Heureusement, Noé avait obéi à Dieu et il avait suivi sa stratégie, ce qui sauva le monde d'un anéantissement total. Or ceux qui se sont moqués de la stratégie de Dieu ont tous péri dans le déluge. Quatrièmement, nous avons l'Église primitive. Le livre des Actes des Apôtres est rempli d'exemples de chrétiens entendant le Seigneur et obéissant à sa voix. Par conséquent, toutes sortes de choses étonnantes et miraculeuses se sont produites. Par exemple, Philippe et l'Eunuque éthiopien. Notez Actes, chapitre 26, verset 40. Ananias et l'apôtre Paul. Notez Actes, chapitre 9, verset 10 à 19. J'ai dit tout à l'heure, Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 40. Ensuite, je vous dis, pour Ananias et l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, verset 10 à 19. Il est facile de se tromper et je vous demande pardon si parfois je pourrais me tromper de citation. Parce que j'essaie d'éviter cela. Nous avons donc Corneille également et l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 10 et notez le verset 1 jusqu'au verset 48. Cependant, les premiers chrétiens n'étaient pas très différents de nous. À un certain moment, vous pouvez lire que l'apôtre Paul et son équipe ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la sainte parole dans l'Asie. Et lorsque ils furent arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors ils franchirent la Mysie et ils descendirent à Troas. Et ce fut là, que le Seigneur parla à l'apôtre Paul par une vision et qu'il l'appela il appela l'apôtre Paul en Macédoine. Actes, chapitre 16, versets 6 à 10. Cela démontre la nécessité pour nous d'être constamment sensibles au Saint-Esprit et à la manière dont le Seigneur nous conduit. Parfois, le Seigneur dira non. Non, ce n'est pas le bon chemin. Voici maintenant le chemin à suivre. Comme nous avons vraiment besoin, tous, de bien connaître la stratégie de notre Dieu et de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Écrivant aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul disait « Nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais voilà que Satan nous en a empêchés. » 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Oui, nous sommes dans un combat, et Satan peut faire tout son possible pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Nous avons donc besoin de connaître la volonté de Dieu et de lutter au travers de l'opposition démoniaque pour faire ce que Dieu attend de nous. Dans cet exemple particulier, Dieu peut avoir permis que Satan les empêche parce que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Ainsi, le Seigneur peut même utiliser l'ennemi pour diriger nos pas dans ses voies. Cinquièmement, nous avons bien entendu notre Sauveur et Seigneur Jésus. Jésus est bien sûr l'exemple suprême de la stratégie divine à l'œuvre dans le monde. Depuis déjà la chute de l'homme, Genèse chapitre 3, et jusqu'à l'ascension du Fils de Dieu, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11, nous voyons la stratégie de Dieu pour sauver un monde mourant de l'emprise de Satan. La stratégie de rédemption de Dieu est un plan directeur de génie divin. Et Jésus a suivi la stratégie de son papa, la stratégie de Dieu à la lettre. Sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Tandis qu'il annulait le contrat qui se dressait contre nous avec ses exigences légales, et il dépouilla les principautés et les puissances des ténèbres en les livrant en spectacle publiquement et en triomphant d'elle par la croix. Durch das Kreuz. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Et sixièmement, nous avons la stratégie de la prière. Bitte. Beten wir alle. Oui. Nous devons non seulement connaître les stratégies de Dieu pour nos vies, notre témoignage et nos ministères, mais nous devons également connaître les stratégies de Dieu dans la prière. En écrivant aux Corinthiens et en comparant la sagesse de ce monde avec la sagesse qui vient de Dieu. L'apôtre Paul conclut ensuite son discours par ces mots. Il a dit, mais nous avons la pensée de Christ. Oh oui, avoir la pensée de Christ, connaître la volonté de Dieu pour nous, et cela instant par instant, et marcher dans la stratégie divine et la victoire. Cela devrait être votre désir constant, mes très chers amis. Si souvent dans la prière, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, Romains 8, verset 26, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Que veut faire Dieu dans cette situation-là? Quelle est sa stratégie? Quelle est la racine du problème dont nous nous occupons? Pourquoi, warum, notre prière ne reçoit-elle pas de réponse? L'ennemi s'oppose-t-il à nos prières? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous le vaincre? Voyez-vous, Jésus, avant son ascension, avait donné à ses disciples une stratégie très simple. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, car j'enverrai sur vous la promesse du Père. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Saint Luc, chapitre 24, verset 49, et notez Actes, chapitre 1, verset 8. Les disciples ont donc obéi et ils retournèrent en ville. Ils ont donc prié. Et le dixième jour, le jour de la Pentecôte, the Holy Spirit, the Heilige Geist, descendit sur eux et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils sortirent de la chambre haute et ils témoignèrent du Seigneur Jésus. Ça paraît très simple, chers amis. Lorsque vous connaissez la stratégie de Dieu et que vous lui obéissez, ah là là, quelle fut la stratégie du Seigneur lorsque l'Église primitive fut persécutée? C'était la prière, c'était l'intercession. Une prière qui avait même ébranlé les cieux et même le lieu où ils étaient en train de prier, de sorte qu'ils furent remplis de nouveau du Saint-Esprit et qu'ils annoncèrent la sainte parole de Dieu avec audace. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 33. N'attendez pas d'avoir comme moi bientôt 90 ans, 90 ans. Non. Mais déjà maintenant, si vous avez la chance d'être à moitié plus jeune que moi, eh bien, faites partie d'une assemblée, d'une église croyante, profonde, qui respecte la parole de Dieu telle qu'elle est, écrite, et faites partie de ce groupe-là, car la force, la puissance de cette église-là, de ce groupe-là, va mobiliser le Saint-Esprit et vous recevrez tout ce qui est écrit. Oui, c'est pas écrit pour des non-croyants, c'est écrit pour vous. Et c'est vrai Quelle fut donc la stratégie de Dieu en envoyant des évangélistes vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens? C'était de réunir les dirigeants de l'Église pour adorer, jeûner et prier, pour leur parler par une prophétie et envoyer ceux que Dieu avait choisis dans le ministère auquel il les appelait. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. N'attendez pas d'avoir 90 ans comme moi. Oh non, j'avais fait une grande erreur, stupide créature que j'étais. Christ est le chef de l'Église. Nous devons rechercher sa stratégie, et lorsque nous la connaissons, nous devons y obéir. Voilà tout le problème. N'est-ce pas? Et que voulez-vous? Je n'avais pas obéi en ce temps-là. C'était moi, le stupide. Et oui, il faut le reconnaître. Vous savez, il ne faut pas avoir honte de reconnaître, comme je le reconnais aujourd'hui, que j'étais nul, que j'étais un crétin, que j'étais un chrétien de parade. Et comme chrétien de parade, croyez-le ou pas, le Seigneur m'a montré quelque chose où j'ai tremblé, où j'ai eu la chair de poule. Voulez-vous entendre ce qu'il m'a dit? Oh, vous allez peut-être dire, non, 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 il exagère ce bonhomme. Il a un peu chopé le Alzheimer. Il radote. Eh bien, le Seigneur m'a montré que même chrétien de nom, j'allais tout droit, tout en étant chrétien de nom, en enfer. Oh, je sais que la plupart d'entre vous allez dire maintenant, prions pour lui parce que il est devenu cinglé. Mais peut-être certains d'entre vous vont comprendre que c'était vrai, que ça existe. Nous avons besoin, chers amis, de nous attendre à Dieu, peut-être en adorant et en jeûnant, peut-être en recherchant Dieu pour recevoir sa stratégie dans la prière et dans l'action. Et lorsque nous faisons la volonté de Dieu, la réussite est assurée. Il existe quelques stratégies inhabituelles. D'ordinaire, ab und zu, lorsque nous rencontrons des besoins ou des problèmes, nous les amenons au Seigneur dans la prière. Mais au moins à trois reprises, Dieu avait dit à Jérémie, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » Jérémie chapitre 7 verset 16, chapitre 11 verset 14 et chapitre 14 verset 11. Nous devons donc rester ouverts au fait que dans certaines circonstances, Dieu peut effectivement nous appeler à différer notre intercession, à renvoyer un peu à plus tard notre intercession. Pour une stratégie encore plus surprenante, veuillez noter ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5, et 1 Timothée, chapitre 1, verset 19 et 20. Que devrions-nous donc faire? Jacques, chapitre 4, verset 7 et 8. Eh bien, ces versets-là l'expriment très simplement. A. Vous devez vous soumettre totalement à Dieu. B. Vous devez résister au diable jusqu'à ce qu'il s'éloigne de vous. C. Vous devez vous approcher de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pas à lui de faire le premier pas. D. Vous devez garder vos mains et vos cœurs purs. Question importante pour terminer. Nous allons terminer notre étude. Quelles sont certaines des stratégies de Dieu pour, premièrement, pour ma propre vie et pour mon ministère? Deuxièmement, quelles sont l'édification de l'Église locale et la discipline de ses membres? Troisièmement, intercéder efficacement pour notre pays. Quatrièmement, engager un combat spirituel victorieux contre les puissances des ténèbres. Cinquièmement, toucher notre pays avec l'Évangile et avec un impact efficace pour Dieu sur notre pays. Et sixièmement, atteindre ceux qui ne le sont pas encore dans le monde avec l'Évangile. Eh bien, il y a de quoi d'avoir du travail sur la planche. Car vous savez, croyez-le ou pas, je suis dans un pays appelé la Suisse, tout près de la frontière de la France, et croyez-le ou pas, ce sont des pays qui sont devenus tellement laïcs qu'ils sont devenus païens. Et il y a, je dirais, vous n'allez pas me croire, ça fait rien, vous allez penser que j'exagère, il n'y a pas des dizaines, mais il y a des millions de personnes qui sont absolument perdues. Perdues pour le ciel, hein. Vous n'avez pas à me croire. Bien sûr que ça semble terrible. Mais supposons que quelques-uns d'entre vous me croient. Eh bien, il y a du travail sur la planche. Sans aller à Mandchourie ou en Chine lointaine ou dans l'Himalaya. Croyez-moi, il y a du pain sur la planche, ici autour de vous. Nous allons maintenant terminer par la prière et je voudrais vous mettre les strophes d'un très ancien cantique. Ensuite, nous prierons et je vous mettrai quelques chants d'un assez lointain passé. Oui, c'est écrit... faut que je vérifie parce que 1965, il n'y avait évidemment pas de CD en ce temps-là, mais les chants, les cantiques étaient très profonds et je suis sûr que ça peut toucher quelques personne qui écoute. Voici donc la strophe de cet ancien cantique. C'est de toi, Père Saint, que j'attends ma justice. Sur tes compassions se repose mon cœur. Tu voulus de tout temps nous être un Dieu propice et tu nous destinais un parfait rédempteur. Heureux qui, connaissant sa profonde misère, sur ce divin Sauveur se repose avec foi, il reçoit son pardon, il trouve en toi son Père, il obtient ton esprit pour pratiquer ta loi. Prions. au notre Dieu ce qui nous tenons toutes choses, c'est de toi. C'est à toi que nous voulons rendre gloire et grâce. Si nous sommes tes enfants, toutes choses sont à nous, et nous à Christ, et Christ à toi. Fais-nous sentir vivement la grâce que tu nous fais ainsi de t'appartenir et d'être ouvriers avec toi. Oh, que nous ne cherchions à nous appuyer sur aucun autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous voulons nous réclamer que du saint nom de notre Sauveur. Nous voulons appartenir et bâtir toutes nos espérances que sur lui pour la vie présente et pour celle qui est à venir. Instruis-nous, Seigneur, dans la sainte folie de la croix et glorifie-toi en nous afin que nous puissions nous glorifier en celui qui nous a été fait de ta part sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous te prions pour tous ceux qui sont affligés, afin que tu leur envoies avec l'épreuve ton esprit de force et de consolation. Apprends-leur à s'attendre à toi, qui est le Père des miséricordes, et à triompher par la foi de toutes les tentations. Ô oui, notre Dieu, garde-nous du péché, et veille sur nous et sur tous ceux qui nous appartiennent selon ton amour, en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, maintenant, j'essaye de vous mettre ces chants d'un assez lointain passé.
Plus seul, Jésus, mon sauveur. Bien.